BFM Business, l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, Erwan Maurice.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre rendez-vous hebdomadaire Happy Boulot. Au programme de cette émission, comment faire avancer un collectif quand on est DRH? Quelques pistes mises en application avec Lorraine de la Morinerie à la tête des RH du groupe Electrolux. Dans cette émission, on répond aussi à vos questions avec nos traditionnels avocats en droit du travail et avec vous Camille Bourg, bonjour.
Bonjour Erwan, aujourd'hui on répond à une question. Je ne suis pas d'accord avec mon évaluation professionnelle 2023, puis-je la contester et comment? Avec l'avocate Valérie Memoun-Hayat. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur l'adresse happyboulot@bfmbusiness.fr.
Vous saurez tout dans quelques instants avec notre avocate. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui a trouvé le boulot de ses rêves. Ça vous aurait bien plu de pouvoir postuler vous aussi, mais voilà, vous n'avez vu aucune annonce. C'est ce qu'on appelle le marché invisible de l'emploi et il est assez vaste. On en parlera dans notre focus. Et puis en fin d'émission, on va vous retrouver, Camille, pour le Labo RH. Vous nous présenterez votre innovation coup de cœur. De quoi parlera-t-on ?
On parlera de ces assurances qui innovent pour les salariés et pour les entreprises.
Merci d'être avec nous, c'est parti, on vous sort de votre boîte.
Happy Boulot, la DRH de la semaine.
Développer une raison d'être pour faire avancer un collectif, c'est le rôle des DRH au milieu d'entreprises mouvantes en permanente transformation. Et on accueille pour en parler la DRH de la semaine, Lorraine de la Morinerie, bonjour.
Bonjour Erwan.
Merci d'être là, vous êtes la DRH d'Electrolux France, groupe d'électroménager suédois, basé à Stockholm, 50 000 collaborateurs dans le, France et en, dans le monde, pardon, et en France, une filiale, donc, filiale commerciale de 250 personnes, avec des axes principaux, donc le service après-vente, le support et la logistique. Ce sont les métiers qu'on va retrouver en France chez Electrolux. Vous êtes dans une industrie qui est frappée par la concurrence, le coût de la vie, le développement galopant de technologies comme l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup sur cette chaîne. La mission du DRH et de ses équipes dans ce contexte-là de gestion des ressources humaines, elle est rendue plus difficile en ce moment? Il y a des sujets comme ça un peu plus compliqués quand on est dans votre métier?
Oui, on a une actualité en ce moment qui est assez fournie, avec beaucoup d'injonctions contradictoires pour nous, pour les DRH, à gérer, faire évoluer un collectif, faire gagner un collectif, une entreprise, dans un contexte incertain, avec beaucoup d'enjeux macroéconomiques compliqués à gérer. Mais je dirais que c'est une habitude maintenant qui est quasiment prise, puisqu'on vit depuis quelques années dans un contexte quasiment de permacrise, de crise permanente.
Et on parle beaucoup d'agilité, ce mot est un peu galvaudé d'ailleurs, dans le monde de l'entreprise. Mais dans les ressources humaines, c'est une vraie qualité qu'il faut avoir. Il faut savoir s'adapter de manière très réactive.
Il faut savoir s'adapter, il faut même parfois savoir anticiper ce qui va arriver. Pour faire avancer l'entreprise, le collectif dans le bon sens et continuer de faire grandir les individus au sein de l'entreprise pour les amener vers un vrai épanouissement.
Alors comment on fait? Soyons concrets dans cette émission, c'est ce qu'on veut aussi voir de manière pratique. Qu'est-ce qu'on met en place dans les entreprises?
Bien sûr.
Vous, depuis votre poste de DRH, qu'est-ce que vous initiez, qu'est-ce que vous impulsez?
Bien sûr. Alors moi j'ai beaucoup de chance d'évoluer dans une entreprise qui est très engagée pour le bien-être, le développement et voilà, l'équilibre vie pro, vie perso aussi des collaborateurs.
Alors ça se caractérise comment? Ça, on l'entend beaucoup, évidemment. C'est aussi comme ça qu'on essaie d'attirer des talents, concrètement.
Alors depuis longtemps, Electrolux a mis en place le télétravail, même avant la période du Covid. Ouais. Depuis 2016 à peu près, ça a été mis en place. On incite aussi quand même beaucoup nos collaborateurs à venir au bureau et à être bien au bureau. On a mis en place par exemple des fruits frais à disposition dans les bureaux.
À la Google un petit peu.
Exactement. Ouais. On propose aussi des paniers de fruits et de légumes venant de régions très proches de Paris en circuit fermé pour développer.
L'idée aussi, étant quoi? Qu'on se sente quand même bien, que ce soit confortable.
Exactement. Au bureau, ouais. On développe aussi beaucoup le sport. On a de la possibilité, les collaborateurs ont la possibilité de faire du sport dans les locaux de l'entreprise. On développe, par exemple, on a mis en place des journées bien-être au moins une fois par an. On propose, par exemple, des séances de massage, un peu de yoga, des smoothies,
pédaler pour avoir ses smoothies. C'est vrai que ça, on le voit de plus en plus dans les entreprises. C'est plus vraiment l'exception. Est-ce que, dans les faits, vous voyez que ça incite effectivement les salariés à venir physiquement au bureau?
Ouais, étonnamment, il y a quand même une demande et les gens sont très contents d'en profiter. C'est vrai que ça peut être un peu galvaudé, c'est des choses qu'on propose finalement assez maintenant de façon assez récurrente, mais il y a un vrai intérêt, une vraie quelque chose qui fédère. Et parfois, on innove. Là, par exemple, on a inscrit l'année 2023 sur le thème de la culture en proposant des visites, notamment de la Basilique Saint-Denis, puisque nos bureaux sont implantés juste à côté du Stade de France. Et ça a énormément plu et on recommencera à l'avenir.
Donc, vous renouvelez ces opérations qui sont concluantes.
Exactement.
Il y a un rôle aussi de communication, de dialogue à tenir avec vos équipes. Pour les tenir au courant de la situation de l'entreprise dans ce contexte, on l'a dit, qui n'est pas toujours très simple. Ça, de plus en plus, il faut faire des va-et-vient entre les salariés, les équipes et la direction.
Ouais, alors la communication, c'est l'élément clé en fait de notre métier, et puis en général, je pense, des équipes de direction qui doivent être très très attentifs au terrain, avoir une écoute attentive à ce qui se passe aussi sur le terrain, les bruits de couloir, malgré tout, on a beau en penser ce qu'on veut, ça joue quand même aussi, et donc cette proximité, cette bienveillance, la porte ouverte, c'est très important et c'est quelque chose qu'on fait tous les jours.
Il y a des plans à mettre en place dans vos équipes RH. En ce moment, c'est quoi, par exemple, le plan sur quoi vous travaillez ?
Alors, on a une actualité plutôt orientée vers la transformation, l'évolution de l'organisation pour rester compétitif et pour garder le cap dans un monde qui se complexifie.
Voilà. Je vois aussi que vous travaillez sur le développement de journées de bien-être. À quoi ça ressemble, par exemple ?
Oui, par exemple, on organise des massages gratuits, ou alors récemment, ce qu'on a fait pour développer le bien-être, mais aussi l'esprit sportif, on a mis en place un challenge sportif avec tous mes collègues RH d'autres pays européens. On a monté des équipes nationales.
Donc c'est international, là ?
Oui, alors là, c'était un challenge international. On a été accompagné par une petite entreprise suédoise qui est spécialisée là-dedans, et ça a vraiment super bien marché. Donc c'est des petites choses comme ça qu'on peut mettre en place, et qui égaye un peu le quotidien des équipes.
Merci Lorraine de la Morinerie. Il nous reste une minute. Je vais vous donner la traditionnelle boîte du DRH dans laquelle il faut piocher un ou deux petits papiers, donc des phrases à compléter, pour savoir un peu mieux, faire un peu mieux connaissance finalement avec le DRH d'Electrolux que vous êtes pour la France. Je vous laisse nous le lire et nous dire comment vous compléteriez cette phrase.
Alors, dans ma boîte, les entretiens avec les salariés, c'est tous les ans, trimestres, mois ou semaines. En fait, je dirais c'est tous les jours. Parce qu'on a des managers qui sont très à l'écoute de leurs équipes, qui chaque jour font attention à ce qui peut se passer.
Donc, on peut demander un rendez-vous facilement quand on veut échanger. On n'attend pas forcément le fameux rendez-vous annuel.
Évidemment, le rendez-vous annuel. Ouais. Tout est très formalisé, très encadré. On a une gestion des carrières qui est très bien faite chez Electrolux. Mais voilà, je dirais qu'on peut tous les jours s'adresser soit à son manager, soit à sa RH, soit même à la direction générale.
Je vous laisse tirer un dernier papier dans ma boîte, chez Electrolux.
Dans ma boîte, si un salarié veut me voir, c'est facile, possible, difficile, impossible, vous aurez compris que c'est
vous, facile. La DRH, c'est facile parce qu'on sait que les RH, c'est quand même une équipe. Il y en a combien chez vous
On a une équipe, une petite dizaine de personnes, un peu moins.
Ouais. Et si on veut voir la DRH, c'est facile aussi.
Oui, c'est facile, bien sûr. On a des outils qui sont tellement bien faits maintenant pour communiquer.
On n'a pas besoin de passer. Il y a quand même un système où on passe par le manager, puis le
responsable du service. Oui, je demande. C'est important aussi de responsabiliser le manager. Donc, on essaye de faire en sorte qu'il soit bien impliqué, un peu en amont, bien entendu. Mm-hmm. Mais quand il faut être là, on est là.
Vous êtes présente. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, Lorraine de la Morinerie, DRH d'Electrolux France. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, on va retrouver Camille pour appeler notre expert, les questions d'auditeurs.
Happy Boulot, coup de fil à l'expert.
Et on joint tout de suite l'avocate Valérie Memoun Hayat pour répondre à cette question. Je ne suis pas d'accord avec mon évaluation professionnelle 2023. Puis-je la contester et comment ? Écoutez.
Alors oui, bien sûr, vous pouvez contester une évaluation professionnelle. Mais déjà, le fait que vous posiez la question veut peut-être dire que l'évaluation professionnelle dans le secteur et dans l'entreprise où vous êtes n'est pas suffisamment processualisée. Donc, en théorie, si vous avez une évaluation professionnelle et qu'elle est écrite et qu'elle ne vous convient pas, vous pouvez bien sûr réagir en disant que vous n'êtes pas d'accord et les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Ensuite, la problématique des évaluations professionnelles, c'est que si elles servent de base à la rémunération variable ou complémentaire ou la prime, c'est vrai que l'impact de cette évaluation négative peut être également financier, raison pour laquelle il faut absolument réagir en fonction des process qui sont mis en place dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Et enfin, si véritablement cette évaluation professionnelle vous paraît douteuse et injuste, elle a peut-être un autre but que de vous évaluer, mais peut-être aussi de vous décourager, auquel cas il ne faut pas laisser s'installer un malaise aussi profond. Il faut aller en parler avec les RH et pas seulement avec l'évaluateur.
Merci Valérie Memounayat. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur l'adresse happyboulot@bfmbusiness.fr. On vous répond toutes les semaines dans notre émission avec nos experts.
Happy Boulot, le focus RH.
On se dit parfois qu'on aurait bien postulé à une offre d'emploi parce qu'elle nous intéresse, mais voilà, bah l'annonce en fait on ne l'a jamais vue et pour cause, elle n'a pas été publiée. C'est ce qu'on appelle le marché invisible de l'emploi. Quelle est son ampleur et comment y avoir accès? On aimerait bien savoir. On en parle avec nos invités que j'accueille. François Moreau, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général du groupe Randstad France et face à vous, Marion Brooke. Bonjour Marie,
bonjour,
chasseuse de tête, fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Exécutive. Avant d'entrer dans les détails, Camille Bourg, quelques éléments importants donc sur ce marché invisible de l'emploi.
Sur les 9,4 millions d'emplois à saisir en 2023 en France, 53% ont été pourvus sans publication d'offres. Ce sont les derniers chiffres publiés par le groupe Randstad. Plus d'une embauche sur deux a donc été réalisée par le biais du réseau, des connaissances, du bouche à oreille ou encore des candidatures spontanées. Un marché invisible qui concerne particulièrement certaines régions. 60% des embauches en Île-de-France, les Hauts-de-France et la région Grand Est complètent le podium. À l'inverse, c'est dans les Pays de la Loire que son poids est le plus faible. Il concerne 42% des embauches. Alors, quels sont les secteurs les plus impactés? Les métiers dits de main-d'œuvre, l'hôtellerie-restauration avec les cuisiniers, commis et serveurs, les services avec les agents administratifs et les personnels de ménage, la santé avec les aides-soignants, le commerce avec les vendeurs et employés de libre-service et enfin le bâtiment avec les maçons et les ouvriers.
Marché invisible plus large qu'on ne le pense. Hein. On le disait, François Moreau, chez Randstad, ça concerne plus d'une offre d'emploi sur deux aujourd'hui. Hein. 53% ouais. En fait, qui existe, ouais. Mais qu'on ne voit pas.
Exactement.
Mais c'est quand même un problème.
Donc, d'abord, c'est une bonne nouvelle.
Oui.
Ça veut dire qu'il y a les offres publiées, puis celles qui ne le sont pas. Et donc ensuite, c'est quel conseil, quelle dynamique on va avoir pour finalement élargir son scope. Soit parce qu'on est demandeur d'emploi et qu'on cherche un emploi, soit parce qu'on est en poste et on a envie d'en changer.
Mais il faut le voir, il faut savoir que les offres existent, Marion Brooke.
Ah oui, et je confirme, hein, ce que les publications de Randstad, nous ce qu'on voit sur le marché, c'est qu'en fonction du besoin, en fonction du positionnement du poste, il y a des postes qui seront facilement publiables et d'autres qui ne le seront pas.
Ouais.
Je vous donne un exemple très concret. Un poste où il y aura un sujet de confidentialité, parce que la personne est encore en poste aujourd'hui, naturellement, nous, on ne pourra pas publier cette annonce. Donc, c'est ça aussi qu'il faut prendre en considération. Et pour rejoindre ce que vous disiez à l'instant, François, c'est au candidat de s'adapter et d'être proactif dans sa recherche.
C'est vrai que certains potentiels candidats sont au courant avant les autres, parce que ça se passe dans leur entreprise. Ça, c'est vrai, hein, en interne, on est plus vite au courant de l'offre avant qu'elle soit publiée.
Alors, il y a les sujets, et de plus en plus, hein, on veut garder ses collaborateurs.
Ouais.
Je vous rappelle quand même qu'on est dans une période qui va durer.
On veut éviter
pénurie,
le turnover.
Voilà, de pénurie sur un certain nombre de métiers. Donc, quand on est une entreprise et qu'on a des collaborateurs, on va d'abord s'adresser à eux pour savoir si finalement le poste que l'on ouvre ou que l'on crée, peu importe, intéresse des collaborateurs. Et puis ensuite, on va s'ouvrir à l'extérieur. Mais c'est important de les garder et surtout de leur proposer des perspectives d'évolution. J'insiste beaucoup là-dessus parce que dans toutes les études que l'on publie, notamment la dernière qui s'appelle Work Monitor, le sujet majeur du collaborateur, c'est des perspectives d'évolution.
Bien sûr.
Rien de mieux que de rester dans l'entreprise et d'évoluer.
Mais pour autant, on n'est pas obligé, quand on est un employeur, de publier l'offre d'emploi. On peut la transmettre comme ça dans l'entreprise sans qu'à l'extérieur, on soit au courant.
Alors, il n'y a aucune obligation légale de publication des annonces d'emploi.
D'accord.
Ce qui va évoluer, il y a une nouvelle directive qui va arriver bientôt, qui va imposer aux entreprises de mettre certains éléments sur les offres. Par exemple, on va devoir mentionner des chiffres par rapport à la rémunération. Aujourd'hui, vous n'avez...
Enfin.
Oui, enfin.
Oui, c'est vrai que ça, on parle aussi beaucoup dans cette émission. Comment voulez-vous qu'on postule à une offre, on ne sait pas combien on est payé? C'est quand même un élément essentiel du choix d'une entreprise et d'un poste.
Nous, en tout cas, dans mon cabinet à Atorus Exécutive, nous avons pris pour partie de systématiquement mettre ces éléments
au moins une fourchette. Hein.
Exactement. Ouais. C'est ce que j'allais vous dire. On a plusieurs options. Soit on va mettre un chiffre exact, soit on peut mettre une fourchette. Mm-hmm. Ça permet aussi de faire un tri pour les candidats et de se dire, poste est en dessous de mes prétentions, ça ne sert à rien que je postule, parce que quelqu'un qui postule de trop risque de décrédibiliser sa candidature. candidatures.
Et ça permet aussi à l'employeur de ne pas recevoir 500 000 candidatures. Donc c'est gagnant-gagnant.
Le même engagement, hein, nous, toutes nos offres, il y a un niveau de rémunération et ça, c'est vraiment important.
On voit dans votre étude qu'il y a des disparités aussi géographiques et par secteur.
Oui.
C'est important ?
Oui, c'est important, dans le sens où on a tous en tête que finalement, dans le domaine du BTP, par exemple, ou dans le domaine de la restauration, c'est un petit monde, c'est un petit milieu, et le bouche à oreille fonctionne bien. Mmh. Donc vous cherchez un cuisinier, vous cherchez quelqu'un en salle, vous allez d'abord vous adresser à votre réseau. C'est un peu la même chose dans le BTP, où vous cherchez un maçon, il y a un système de compagnonnage, et donc c'est entre eux qui vont se dire, j'ai des besoins, et ils vont être recommandés. Donc ça, c'est un premier... Mais on le voit aussi, donc là, je parle plutôt de col bleu, d'ouvriers qualifiés, d'ailleurs, mais on voit aussi que dans un certain nombre d'environnements pour les cols blancs, pour les cadres, il y a aussi ce bouche-à-oreille qui fonctionne, notamment dans vos métiers à vous, dans les médias.
Les médias, ouais.
Ça marche bien, le bouche-à-oreille.
Ouais. Mais souvent, on a l'impression que l'employeur est quand même obligé, ou, je ne sais pas si c'est par conscience, de publier l'offre. En fait, non, c'est ça. On n'a pas d'obligation.
Non, il n'y a pas d'obligation. Mais si vous voulez, nous, on multiplie nos chances de réussir à avoir des candidats. On est quand même sur un marché où ce n'est pas évident d'obtenir des bons candidats. Ouais. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'évidemment, on va faire beaucoup d'approches directes. Mais on ne s'interdit pas de se dire... Sur un malentendu, on peut avoir, en publiant une annonce, un candidat qui pourrait être potentiellement intéressant pour nous.
Mais on dit quoi aussi aux candidats, justement, quand on a ces informations, il y a plus d'un emploi sur deux qu'on ne voit pas sur les offres d'emploi. On leur dit, postulez, faites des candidatures spontanées, on ne sait jamais aussi, peut-être que l'entreprise est à la recherche d'un profil auquel vous correspondez.
Oui, il y a ce qu'on appelle le marketing de soi, c'est-à-dire se mettre en avant. Mais dans toutes les situations de son quotidien, ce n'est pas simplement sur les réseaux sociaux.
Le personal branding.
Personal branding en anglais, tout à fait. Ça peut être dans son environnement familial, dans son environnement amical, et évidemment dans son environnement professionnel, avec ce que vous venez de dire sur le fait, notamment, de bien connaître certains secteurs d'activité, de s'y intéresser, et pourquoi pas, d'envoyer une candidature spontanée.
Ouais. Vous, Marion Brooke, chasseuse de tête, c'est aussi votre métier de transmettre des postes, faire connaître des postes qui ne sont pas forcément sur le marché aussi.
Alors, nous, par essence, souvent, on intervient dans des contextes complexes sur les fonctions de direction juridique ou de DRH. Donc, quand les clients font appel à nous, ce qu'ils vont attendre de nous, c'est justement de la discrétion et de faire du sur-mesure. Donc, par nature...
Ils ne publient pas les offres.
Non, par nature, généralement, les directeurs juridiques, vous ne publiez pas une annonce. Ouais. Donc, ça nous impose à nous d'avoir un travail de connaissance de notre réseau. Et ce qu'on peut dire à tous les candidats, c'est que ce n'est pas au moment où vous allez... rechercher, où vous êtes vraiment en recherche, qu'il faut travailler son réseau. C'est un travail de tous les jours, au quotidien. Et au contraire, quand vous êtes bien dans votre poste, c'est à ce moment-là qu'il faut travailler son réseau auprès de ses chasseurs de tête, auprès de ses pairs et même auprès d'autres personnes. De ne pas avoir peur d'ouvrir le casque.
Ne jamais se reposer sur ses lauriers.
On
fait quoi ? Donc, on parle beaucoup des réseaux sociaux. C'est quoi ? C'est LinkedIn toujours, le réseau social professionnel par excellence sur lequel on doit aussi mettre en avant ses compétences.
On doit avoir un profil à jour. On doit faire son marketing. Donc, mettre en avant finalement des expériences en étant précis, en donnant des détails, en donnant éventuellement des éléments de vidéo. Et c'est important ce que vous disiez, parce qu'on voit bien que sur des métiers un peu pénuriques, on a, nous, plusieurs activités chez Randstad. On a une activité de recrutement, notamment chez les ingénieurs en cybersécurité, par exemple. Ou on a une autre activité dans le domaine du médical. On cherche, nous, désespérément, des médecins pour les hôpitaux. Là-dessus, c'est que de l'approche directe. Donc, c'est des gens qui sont souvent en poste. Il va falloir les convaincre d'aller ailleurs. Donc ça veut dire qu'il faut que leur profil soit mis à jour.
Marion Brooke.
Alors effectivement, pour les réseaux aujourd'hui, ce qu'on a pu voir ces dernières années, c'est que LinkedIn est devenu un acteur incontournable du marché. Et clairement, aux candidats et aux clients, on leur dit il faut être sur LinkedIn.
Par ailleurs, sur LinkedIn, on trouve un peu tout et n'importe quoi de plus en plus. C'est-à-dire on se met à poster des trucs assez perso finalement. C'est plus le réseau professionnel exclusif.
Alors c'est un réseau qui est en train d'évoluer, clairement. Après, il peut être utilisé de plusieurs manière. Un, pour rechercher un emploi en regardant les annonces qui sont postées, mais aussi c'est une source pour avoir des informations. Donc pour les candidats, savoir comment telle entreprise se positionne, ou alors quand je vais préparer un entretien d'embauche, d'aller vérifier les profils des personnes que je vais rencontrer. Donc c'est un réseau avec ses qualités et ses défauts, néanmoins incontournable, donc il faut y être et savoir bien les règles pour bien le manier, bien l'utiliser à bon escient.
Qu'est-ce qu'on dit finalement que avoir accès à ce marché invisible par les amis, par la famille, par le bouche à oreille, par le fait de faire des candidatures spontanées. C'est ce qu'il faut aujourd'hui, bah voilà, avoir en tête pour se démarquer
et ne pas se brider. Ouais. C'est-à-dire que parfois, quand on est dans une période intermédiaire entre deux emplois, c'est moins le cas, mais il y avait une espèce de honte de dire. Je suis à France Travail ou je cherche un emploi. Et je pense qu'au contraire, aujourd'hui, d'abord, il n'y a pas de honte à être dans cette période-là. C'est parfois une richesse aussi. Faut pas que ça dure trop longtemps. Et donc de le dire en disant, mais tiens, je vois cette personne, je dois lui en parler, je dois être précis, je dois lui faire part des éléments de ma recherche. Et j'insiste, dans son réseau amical, dans son réseau familial et dans son réseau professionnel. Mais le réseau amical et familial est extrêmement important et totalement sous-estimé.
Capitaliser là-dessus. Il y a les chasseurs de tête, mais il y a aussi les amis, la famille.
Évidemment. Et alors là, je vais aller un peu plus loin. C'est qu'on a beaucoup parlé des réseaux LinkedIn et on oublie les parties les soirées, les petits fours, vous rencontrez du monde. Eh bien, il faut y être présent. Il faut se remontrer. On est
passé. Faut sortir.
Faut pas avoir, entre guillemets, peur d'aller échanger avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément et élargir son réseau parce que finalement, c'est comme ça que vous allez trouver votre prochaine opportunité.
Voilà pour les conseils de nos invités et leur regard aussi d'experts. Merci beaucoup François Moreau, secrétaire général du groupe Randstad France et Marion Brooke, chasseuse de tête, fondatrice du cabinet de recrutement à Taurus Exécutive. Merci d'avoir été avec nous, c'est l'heure de la carte blanche.
Happy Boulot, carte blanche.
Avec Yannick Mercieris cette semaine qui est allé chercher quelques mots à l'étranger qui nous seraient bien utiles dans notre langue française apparemment, Yannick.
Wow, je suis en backstive là.
Qu'est-ce qu'il dit là?
C'est pas ce que ça veut dire? C'est normal. Voici 5 mots qui n'existent pas en français et qu'on devrait inventer. Nomikai, ça vient du Japon et c'est se réunir avec ses collègues pour aller boire des verres. Kanpai. Et là où c'est particulier en fait, c'est que c'est le patron qui initie tout ça, donc difficile de dire non. C'est comme un after work, sauf que t'es obligé d'y aller. Bon, le fameux backstive, ça vient du Danemark et c'est le fait de se réveiller en étant encore un peu ivre de la veille.
Laisse tomber, j'ai une gueule de bois, on dirait une ébéniste.
Et ça, quand on bosse, c'est chaud. Turtle, ça vient d'Écosse et c'est quand vous voulez présenter quelqu'un, mais vous êtes plus trop sûr de son prénom. Jérôme, Gérard, Michel, Sonntagslehrer. Ça vient d'Allemagne, c'est la dépression du dimanche après-midi. Vous savez, quand c'est bientôt lundi, il fait nuit à 17h. Et mon dernier, c'est mon préféré, Meutepar. Ça vient de Finlande et c'est quand vous avez honte à la place de quelqu'un. Exemple, une blague toute pourrie. C'est quoi une chauve-souris avec une perruque? Eh ben une souris. C'est ça, Meutepar. Si vous connaissez d'autres mots, balancez-les dans les commentaires.
Happy Boulot, le labo RH.
Chaque premier week-end du mois dans le Labo RH, c'est le coup de cœur d'Happy Boulot, la sélection de Camille Bourg. Aujourd'hui, Camille, vous avez choisi ce qui vous semble être la bonne idée RH.
Oui, Erwan, aujourd'hui, je vais vous parler des assurances qui innovent. Alors, elles sont innovantes pour les salariés, mais aussi pour les entreprises, vous allez le voir. La première dont je veux vous parler, c'est Kanko, une start-up InsurTech à impact.
Alors, K-E-N-K-O, hein, c'est
exactement,
ça.
Exactement, ouais. Qui est assez récente, puisque cette mutuelle a été fondée en 2022. Sa spécificité, et c'est ça qui est important, c'est que chaque salarié inscrit peut choisir gratuitement sur quelle catégorie de soins il souhaite renforcer ses remboursements, optique, dentaire, soins courants, tout en bénéficiant dans le même temps d'un contrat collectif protecteur sur tout le reste.
Donc en fonction de ses besoins, hein, c'est ça?
Exactement.
Par exemple, je porte des lunettes, bah, je vais mettre un peu plus d'argent chez l'opticien.
Exactement, c'est ça. Okay. Et alors cette flexibilité, elle permet aux assurés d'être mieux remboursés sur ce qui est important pour eux, et ça évidemment c'est propre à chacun. Et le petit plus de cette mutuelle, c'est qu'elle redistribue l'argent qui n'a pas été dépensé aux assurés à la fin d'année pour qu'ils puissent financer des actions autour de la prévention, de la santé ou du bien-être.
Bon, ça, Camille, c'est intéressant à l'heure où on cherche de plus en plus d'avantages sociaux dans les entreprises. Hein. C'est aussi un élément d'attractivité.
Mais effectivement, selon une récente étude qui avait été menée par OpinionWay pour May, les salariés sont 82% à considérer que les avantages salariaux sont devenus essentiels, notamment avec le contexte inflationniste que l'on connaît. Alors seulement 46% se disent satisfaits de ce que leur entreprise leur propose.
Oui, donc il y a un gouffre entre ce qu'on attend et ce qu'on a dans la réalité, d'où ces innovations aussi pour attirer, innover, être de plus en plus attractif. Sur le marché de l'assurance professionnelle aussi, Camille, on innove.
Effectivement, alors je vais vous parler d'Aurus, c'est une autre start-up InsurTech qui a été fondée cette fois-ci en 2021. Les fondateurs sont partis du constat suivant, les assurances professionnelles sont généralement conçues pour répondre aux besoins des grandes entreprises, mais alors les laissés pour compte, c'est les TPE et PME.
Comme souvent.
Alors ils proposent une solution plus simple et transparente avec des contrats modulables, et c'est ça qui fait un peu la spécificité de cette assurance professionnelle, sans engagement mais aussi avec un processus de gestion des sinistres digitalisé pour être remboursé en quelques heures seulement. L'objectif, c'est de dépoussiérer du coup ce secteur qui est souvent un peu opaque et un peu complexe.
Donc on fait, si je comprends bien, pour résumer aussi, des programmes de plus en plus à la carte.
Exactement.
Pour que ça corresponde à chacun en fonction des entreprises, grandes entreprises, petites entreprises.
Exact. Et des indépendants aussi.
Vous prendriez quoi, par exemple, dans votre assurance ?
Un peu de tout, je pense.
Un peu de tout. Allez, on mettra un peu de tout pour Camille. Bon, merci beaucoup, Camille, pour cette chronique Labo RH. C'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouvez cette émission, bien sûr, comme chaque semaine, en replay, en podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir directement les nouveaux épisodes. On se retrouve le week-end prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, on vous souhaite, bien sûr, d'être heureux au boulot.
Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.